autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Sophie Joubert.
Bonjour à tous et bienvenue. Comment déchiffrer le récit des origines? Comment expliquer la première étincelle de vie? Peut-on définir le vivant? Quelles sont les conditions nécessaires à l'émergence de la vie? Comment la première cellule s'est-elle formée? Où chercher la vie? Les frontières entre le vivant et le non-vivant sont-elles bouleversées par les avancées de la recherche? Que peut la science face au créationnisme? Autour de la question « D'où vient la vie ?», la réalisation est signée Charles Pélabon. Bonjour Marie-Christine Morel.
Bonjour.
Vous êtes professeure de biochimie et de biologie moléculaire à l'université Pierre et Marie Curie et vous publiez aux éditions du Pommier dans l'excellente petite collection Les petites pommes du savoir, d'où vient la vie, qui fait le point en 122 pages sur l'état des connaissances à la fois historiques et l'état de la recherche, ce qui n'était pas évident. Alors, d'où vient la vie, c'est vraiment la question fondamentale et surtout, c'est une question qui intéresse tous les champs de la recherche.
Absolument, c'est une enquête. C'est une quête que l'on appelle interdisciplinaire aujourd'hui, puisque évidemment, si l'on cherche à comprendre d'où vient la vie sur Terre, sur notre planète, il faut faire appel à des connaissances d'ordre géologique, géochimique, astrochimique, astrophysique également. Rassembler toutes ces disciplines, toutes ces connaissances pour essayer de comprendre en tant que biologiste, puisque la biologie s'intéresse à la vie, essayer de comprendre comment les premiers organismes sont apparus sur la Terre primitive et se sont développés pour devenir la diversité énorme que l'on observe aujourd'hui. Et puis, face à toutes ces interrogations, évidemment, se posent des questions d'ordre philosophique, des interrogations profondes, puisque d'où je viens, tout le monde s'est posé cette question, à un niveau intime, à un niveau personnel, et ça a parfois, cette curiosité personnelle a évidemment des répercussions sur la pensée, et puis le développement personnel de tout un chacun. Et puis, il y a aussi des interrogations d'ordre éthique, puisque quand on cherche d'où vient la vie, on a tendance évidemment à vouloir reproduire ces premières étapes. Et est-ce que nous pouvons nous permettre d'essayer de reconstituer une cellule vivante ou un organisme vivant de novo avec les outils dont nous disposons aujourd'hui? Quels sont les risques? Quels sont les avantages, les inconvénients, les risques,
est-ce qu'on etc. joue aux apprentis sorciers?
Voilà, donc question éthique très importante.
Autour de la question d'où vient la vie, avant d'aller plus loin, je vous propose d'écouter le mix forcément originel de Charles Pélabon.
700 millions d'années après la formation de la Terre, la vie entre en scène.
Toute la question, c'est de savoir si c'est un phénomène exceptionnel ou pas.
Nos ancêtres sont de minuscules organismes, les bactéries.
Quand vous aurez fini votre éblouissant prêchi-prêchin, relisez Darwin.
Pour moi, l'instant le plus extraordinaire dans l'histoire de l'évolution, c'est quand le premier amphibien est sorti de l'océan primitif et a aspiré sa première bouffée d'air.
D'autres types de vie ont besoin d'oxygène, mais d'autres types de vie n'ont pas besoin d'oxygène. Par contre, toutes les formes de vie ont besoin d'eau. Donc l'eau, c'est la vie.
Pourquoi autant de difficultés pour nommer le vivant?
Un être vivant, en fait, c'est un être qui est capable de se répliquer.
Des millions d'espèces différentes. Or, un singe donne toujours un singe. Leur plan de fabrication, ADN, acide désoxyribonucléique.
Les acides nucléiques sont des polymères de ce que les chimistes appellent des bases puriques et pyrimidiques.
Rien compris, moi.
Mais moi non plus!
La chimie prébiotique se situe aux origines du vivant ou bien aux frontières entre le vivant et le non-vivant, en suivant l'hypothèse que l'évolution de la vie a été précédée par l'apparition de la vie sur Terre ou ailleurs que sur Terre.
La recherche d'informations sur des traces de vie nous emmène au-delà de la Terre, jusque dans le système solaire.
Est-ce qu'on a des chances de retrouver des molécules d'ARN éventuelles dans une roche sédimentaire martienne?
Imaginez un instant, un univers grouillant de vie.
Aujourd'hui, on parvient même à recréer du vivant, à la biologie de synthèse.
La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie.
Interfacer le cerveau de telle sorte qu'on puisse augmenter la mémoire. Nous allons devenir, dans une certaine mesure, des hommes augmentés par le biais de ces technologies.
La vie, la vie, la vie, la vie, la vie.
la vie, la vie, la vie.
Voilà, c'était le générique du dessin animé. Il était une fois la vie. Je vous ai vu prendre des notes, Marie-Christine Morel, réaction sur ce petit mix de Charles Pélabon.
Je le trouve très bien, il rassemble beaucoup d'idées et à la fois il est intéressant parce qu'il pose vraiment des questions d'actualité, puis des questions d'histoire, des questions du passé, des questions du présent. Et j'ai pris des notes en ce qui concerne l'oxygène parce que toute une partie de la communauté scientifique recherche, par exemple, quand on cherche de la vie ailleurs, dans notre galaxie ou dans d'autres galaxies, on recherche la présence d'oxygène. Mais on oublie de dire que la vie sur Terre est apparue sans oxygène. Donc ce marqueur oxygène n'est pas nécessaire à la formation de la vie et à l'existence de la vie, bien que aujourd'hui, évidemment, sur Terre, il n'y a pas de vie possible sans oxygène pour les organismes dits aérobies. Mais il existe des organismes anaérobies qui évidemment vivent tout à fait de manière permanente ou par intermittence avec ou sans absence d'oxygène. Et puis la deuxième chose que j'ai notée, mais j'ai pas pu noter parce que tout allait très vite et c'était très 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 bien, la présence d'eau liquide, parce qu'évidemment il y a de l'eau partout dans l'univers, mais l'eau existe sous forme solide,
la glace
des comètes, et puis
sous forme de vapeur.
On en trouve partout dans l'univers, mais l'eau liquide est très rare, et donc effectivement on oublie souvent de mentionner qu'il n'y a pas de vie sans eau liquide, de vie telle que nous la connaissons aujourd'hui, puisque ce syntagme tel que nous connaissons aujourd'hui
est
devenu comme une espèce de définition de la vie. Sans eau liquide, il n'y a pas de vie.
Voilà, et c'est ça qu'il faut chercher au premier chef, et on la cherche,
cette
eau liquide
sur Mars. Sur Mars, par exemple, la recherche est très intense de traces de vie, parce que des vallées où l'eau liquide se serait écoulée ont été identifiées vraiment de manière absolument certaine. Et on sait que sur Mars, il y a eu de l'eau liquide. Mars est apparu exactement en même temps que la Terre, au moment de la formation du système solaire. Et il y a donc eu des événements très très proches de ceux qui se sont produits sur Terre, mais qui ont disparu suite à la petite masse de cette planète, enfin toute une série de facteurs que je ne saurais pas décrire avec précision, parce que je ne suis pas astrophysicienne, mais on sait que les premiers instants de la planète Mars ont été les mêmes que ceux de la Terre.
Alors, vous dites dans ce livre « D'où vient la vie », Marie-Christine Morel, qu'il est extrêmement difficile de définir ce qu'est la vie, ce qu'est le vivant. Oui. Je vais quand même vous faire écouter une tentative de définition par Michel Morange. Il est professeur de biologie à l'ENS et à l'Université Paris 6, directeur du Centre Cavaillès d'Histoire et de Philosophie des Sciences de l'ENS, et il est au micro d'Hugo Strunin.
Je vais vous en proposer une, je ne suis pas sûr que tous les biologistes l'approuveraient, je pense que beaucoup l'approuveraient. C'est de dire que le vivant, c'est trois caractéristiques essentielles. La première caractéristique, c'est d'être capable de refabriquer ses composants, donc c'est un ensemble de réactions chimiques qui en même temps sont capables de régénérer leurs propres composants. Donc une sorte de système chimique auto-entretenu. La deuxième caractéristique, c'est le pouvoir de reproduction. Les êtres vivants peuvent se reproduire à l'identique, donner deux êtres vivants à partir d'un. Et ceci, évidemment, conduit à, si la reproduction n'est pas parfaite, ce qui est quasiment toujours le cas, à la possibilité d'avoir des variations et donc d'avoir une évolution. La troisième caractéristique, c'est le fait que les êtres vivants sont des individus, c'est-à-dire d'une certaine manière, ils sont séparés du reste de leur environnement. Alors, les êtres vivants actuels sont séparés par des membranes qu'on a caractérisé.
Est-ce qu'à l'aune des nouvelles évolutions de la biologie synthèse, la robotique, l'intelligence artificielle, est-ce que tout ça va nous amener à devoir modifier cette définition du vivant ?
Elle est très vague, il faudra préciser. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a encore des disputes pour savoir, par exemple, est-ce qu'il faut toujours une membrane pour isoler, et quel type de réaction il faut pour avoir un organisme de base, etc. Faut-il une sorte de molécule qui sert de mémoire, comme l'ADN aujourd'hui ? Donc, il y a plein de questions qui sont encore posées et sans réponse. Et ça sera des modifications. Est-ce qu'on en changera ces trois caractéristiques ? Je ne sais pas. En tout cas, la reproduction est... L'idée que ce sont des systèmes métaboliques auto-entretenus, ça me semble des valeurs assez solides. Maintenant, certains physiciens, par exemple, diraient que peut-être qu'on peut avoir des systèmes entièrement physiques. C'est l'idée simplement de robots qui seraient capables de s'autoconstruire et donc de se reproduire. Non, ça n'existe pas encore, mais qui sait ? Il faut garder la porte ouverte.
Qui sait, Marie-Christine Morel, une définition du vivant n'est jamais stable.
Oui, tout à fait. Enfin, j'adhère entièrement à ces trois caractéristiques qui ont été décrites par Michel Morange. Mais cependant, il y a un certain nombre de points, je crois, que l'on peut essayer d'approfondir. Par exemple, il y a un glissement permanent entre la vie et le vivant. Mm-hmm. Or, de mon point de vue, ça n'est pas la même chose. La vie, c'est quelque chose que l'on essaie de définir avec des caractères définitifs, délimités. Et le vivant, de mon point de vue, est quelque chose qui n'est pas définissable en termes de caractère, mais plutôt en termes de processus. Mmh. Et je crois que il est plus intéressant de définir donc le vivant que la vie. La vie, c'est définir la vie me fait penser à quelque chose d'extrêmement réducteur, à une démarche que l'on appelle réductrice dans notre jargon. Et il est plus intéressant d'essayer de comprendre, à mon avis, une démarcation entre ce qui est vivant et ce qui est non vivant. Et
il faut avoir à l'esprit la dynamique, l'évolution. Il faut penser en ces termes-là.
Alors, dynamique et évolution. Alors, justement, Michel Morange a parlé des physiciens qui avaient tendance à imaginer que la vie n'était que matière et que donc au fond avec de la matière on peut faire des robots et donc on peut simuler tout ce qui fait penser à du vivant. Eh bien oui, je pense que on est comme dans une espèce d'étau entre tous ceux qui pensent que la vie, le vivant, la vie, disons, se caractérise par la matière et l'énergie, mmh. et puis une autre dimension qui est liée au temps. La vie a introduit le temps, si vous voulez, dans la compréhension a créé le temps, et il y a une échelle de temps qui est qui appartient uniquement à la vie et qui n'appartient pas à la matière et à l'énergie ces deux données s'expriment dans le monde matériel qui nous entoure. Donc je crois que le temps, alors évidemment c'est lié à des questions d'évolution puisque et à l'histoire, mais c'est aussi lié à la mémoire, et je pense que c'est une piste qu'il faut absolument explorer et lorsque l'on recherche de la vie à la fois sur Terre, des formes de vie différentes, mais également ailleurs, peut-être qu'il faut s'intéresser aux échelles de temps. Pourquoi ne considérions-nous pas des objets que l'on qualifierait de vivants et qui vivraient à des échelles de la nanoseconde, de la femtoseconde, alors que ce sont des échelles que l'on n'explore pas en général en tant que biologiste.
Autour de la question d'où vient la vie, nous allons parler des acides nucléiques ADN, ARN, juste après Smarty, Feeling de vie sur RFI.
Taxi rousse dans la poussière de nos villages. Bienvenue dans les secousses, dans la beauté du paysage. Ça sent les noix de karité et les sourires ensoleillés. Viens, prends-moi la main et viens, prends-moi la main et viens chanter le refrain. C'est le feeling de la vie. C'est le feeling de l'amour sur quelques notes de mélodie. C'est le feeling de la vie. C'est le feeling de la vie. C'est le feeling de l'amour sur
sur quelques notes de mélodie. C'est le feeling de la vie. Ba 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 da. Regarde nos mères dans la gaieté, chant du pilon et du mortier, dans le dos de beaux bébés. Chaque soir est un été, les filles viendront de la rivière, les lampes feront de la lumière. Viens, prends-moi la main, et viens, prends-moi la main, et viens, chanter le refrain. C'est le feeling de la vie. C'est le feeling de l'amour sur quelques notes de mélodie. C'est le feeling de la vie. C'est le feeling de la vie. C'est le feeling de l'amour sur quelques notes de mélodie. C'est le feeling de la vie.
Marty, feeling de la vie sur RFI. Marie-Christine Morel, si on parle de biologie moléculaire, il faut revenir à une découverte fondamentale dans les années 50, c'est la double hélice de l'ADN.
Oui.
Et alors, vous dites dans votre livre D'où vient la vie que, en fait, aujourd'hui, on se demande si ce n'est pas l'ARN qui est au début de la vie.
Oui, tout à fait. Ben, c'est-à-dire que l'ADN, c'est une molécule très stable et qui s'est installée durablement au cours de l'évolution biologique, mais avant cette molécule d'ADN,
acide
désoxyribonucléique qui est en double hélice. On la voit souvent dans la vitrine de nos pharmacies pour représenter la molécule qui va cosmétique.
Qui va nous enlever nos rides.
Voilà, qui va nous enlever nos rides et nos soucis de santé. Mais bien avant l'acide désoxyribonucléique, une molécule plus simple qui n'était pas en double hélice, qui n'est pas en double hélice, qui est c'est un simple brin qui cependant a des propriétés de repliement. Et lorsqu'elle se replie, elle peut former localement des doubles hélices. Et bien, cette molécule simple s'appelle acide ribonucléique, ARN. Depuis les années 50, on considérait que dans chaque cellule vivante, il y avait un triptyque fondamental qui était l'ADN, qui était transcrit en ARN. Et cet ARN portait le message génétique qui était inscrit dans l'ADN. Et grâce à ce message génétique, les protéines étaient assemblées, l'assemblage des acides aminés donnait les protéines à la suite du message qui était porté par l'ARN en provenance de l'ADN. Et puis on s'est aperçu dans les années 80 que cette molécule d'ARN n'était pas simplement qu'une simple porteuse de messages, mais qu'elle exerçait également, à l'instar des protéines, des actes catalytiques. Ces actes dont a parlé Michel Morange tout à l'heure, lorsqu'il a dit qu'il fallait refabriquer, être capable de fabriquer ses propres composants, eh bien, dans chaque cellule vivante, il y a des protéines qui permettent la fabrication de tous les composants. Et ces protéines qui permettent cette fabrication, ce sont des enzymes. Eh bien, dans les années 80, Thomas Cech et Sidney Altman, qui ont obtenu le prix Nobel pour cette découverte, ces deux chercheurs ont découvert que l'ARN, à l'instar des protéines, était également capable d'exercer des actes catalytiques, était également des enzymes. Et on a appelé ça des ribozymes, qui est la contraction de ribose, le sucre que l'on trouve dans l'ARN, et de zyme, qui vient de enzyme. Et donc ces ribozymes ont complètement installé définitivement un paradigme majeur qui est celui stipulant que l'ARN est apparu avant l'ADN, aux toutes premières étapes de la vie. Et l'ADN, au fond, ne serait qu'un ARN modifié.
Et vous allez consacrer très bientôt un colloque à cette ARN, Marie-Christine Morel. Vous restez avec nous, on va continuer de parler de cette question des origines de la vie, juste après les informations sur RFI.
Sophie Joubert.
Autour de la question d'où vient la vie avec Marie-Christine Morel, professeure de biochimie et de biologie moléculaire à l'université Pierre et Marie Curie et auteure du petit livre très complet d'où vient la vie, paru aux éditions du Pommier dans la collection Les Petites Pommes du Savoir. Alors quelles sont les frontières du vivant? Comment bougent-elles? Nous allons prendre l'exemple des virus avec Éric Leroy, directeur de recherche à l'IRD.
Je ne pense pas qu'on peut réduire le concept de la vie à une définition. C'est un concept, hein. Donc par définition, c'est plus conceptuel que réducteur, hein, à deux ou trois mots. Pour exemple, c'est que le virus n'a jamais été considéré comme un être vivant, au sens premier qu'on a donné à la vie, mais en fait, maintenant, tout le monde s'accorde à dire que ce sont également des êtres vivants. Un être vivant, en fait, c'est un être qui est capable de se répliquer. Maintenant, il y a juste la notion d'autonomie, ou alors un être qui a besoin d'un autre être vivant. Parce que le virus ne peut pas se répliquer tout seul. Il est obligé de le faire aux dépens d'un être vivant. Mais à ce titre-là, on a des parasites, qui sont des végétaux, le gui par exemple, ou même des animaux, qui ne peuvent pas vivre aussi seuls, qui sont des parasites et qui sont eux des êtres vivants. Donc voilà, la question est vraiment compliquée. Je pense que c'est plus un débat d'idées qu'un débat de sémantique, et que au lieu de réduire le vivant à une définition, on peut essayer de mettre différentes strates du vivant, et le virus appartiendrait donc à une certaine strate qui possède certaines caractéristiques des autres êtres vivants et qui ne possède pas d'autres caractéristiques.
Vous approuvez, Marie-Christine?
Oui,
Morel.
Absolument. Je suis enchantée d'entendre parler ainsi du vivant. À savoir que cette question, cette notion de strate est tout à fait fondamentale. On peut être vivant, comme nous disons dans notre milieu, de différentes manières. Et donc les virus aujourd'hui sont en train de recouvrer ce qu'ils, pendant longtemps, leur a été interdit, à savoir qu'ils ont toutes les lettres de noblesse du vivant, au même titre que des bactéries parasites obligatoires. Il n'est pas nécessaire d'être cette notion d'autonomie est toute relative. D'autre part, un virus, selon les termes dont on a avec lesquels on a décrit le vivant tout à l'heure, le virus, c'est un acide désoxyribonucléique ou ribonucléique, hein, par exemple le virus du sida ne contient que de l'ARN, enfermé dans un compartiment. Donc la notion de compartimentation existe pour le virus, la notion de reproduction avec variation existe, et donc la troisième caractéristique, celle qui était donnée en tout début d'émission, qui consistait à dire que le vivant était capable de fabriquer ses propres composants, eh bien on connaît aujourd'hui des virus d'archébactéries qui sont capables eux-mêmes de fabriquer, en dehors de toute hôte qui les accueillerait, des appendices. Par exemple un virus qui s'appelle ATV, pour Acidianus Two-Tailed Virus, eh bien on voit qu'il a une forme de citron comme ça, avec des petits appendices qu'il peut synthétiser lui-même en dehors de toute hôte qui lui donnerait les ingrédients en quelque sorte pour le synthétiser. Et il y a des travaux absolument formidables qui sont réalisés aujourd'hui à l'Institut Pasteur par David Pengesch-Lévy, qui montre l'extraordinaire diversité de tous ces virus qui exercent par eux-mêmes des activités que l'on qualifie de métaboliques. Donc je crois que la frontière vivant-non vivant est tout à fait déplacée aujourd'hui vers des formes de vie que l'on ne connaissait pas. Et il y a cette notion d'intermédiaire, si vous voulez, d'être entre guillemets, d'êtres intermédiaires, est tout à fait pertinente. Par exemple, vous savez que normalement, les seuls organismes vivants que l'on pensait capables d'exercer, de pratiquer la photosynthèse, c'est-à-dire de prendre l'énergie du soleil pour transformer des molécules de CO2, par exemple, atmosphériques, en molécules organiques, on pensait que c'était uniquement l'apanage des plantes, ou du moins des organismes, même bactériens, qui étaient dotés de chloroplastes. plastes ou de
chloroplastes.
Alors chloroplastes, ce sont d'anciennes bactéries d'ailleurs qui ont été assimilées, ingurgitées entre guillemets par des compartiments plus grands à une certaine époque de l'évolution, aux alentours de 2,7 milliards d'années. Bon, à quelques millions d'années près, je ne précise pas ici, mais disons, et ça a constitué une cellule un petit peu plus sophistiquée que les simples bactéries que l'on connaît, des cellules que l'on appelle eucaryotes. Nous sommes constitués de milliards de cellules eucaryotes de ce type-là, c'est-à-dire un gros compartiment avec des compartiments à l'intérieur. Eh bien, ces chloroplastes qui sont, grâce à qui les plantes vertes pratiquent la photosynthèse, c'est-à-dire l'assimilation grâce à la chlorophylle de la lumière et la transformation du CO2 en molécules organiques, eh bien ces chloroplastes étaient jusqu'à peu de temps l'apanage des plantes. Eh bien aujourd'hui, on a découvert qu'un organisme absolument extraordinaire, une petite limace, un animal donc, que l'on appelle Elisa chlorotica, et j'invite vraiment tout le monde à taper sur son ordinateur Elisa chlorotica, parce que cet organisme est magnifique. C'est une petite limace d'un vert absolument sublime, très très beau. Eh bien, cette limace se nourrit d'algues et incorpore donc les chloroplastes et peut donc vivre pendant plusieurs mois, à l'exception d'autres nourritures que celles en provenance de du CO2 et de elle tire son énergie de la lumière solaire. Et alors jusqu'à présent, on pensait que les chloroplastes assimilés par Elisa chlorotica était logé sous la peau et c'était grâce à cette proximité avec l'extérieur de l'organisme que les processus métaboliques pouvaient se produire. Et bien on vient de découvrir tout à fait récemment que non seulement Elisa chlorotica assimile ces chloroplastes, mais qu'elle incorpore des gènes de ces chloroplastes dans son propre génome et est donc capable, grâce à cette transformation génomique, de réaliser tous les processus absolument tout à fait identiques à ceux qui se passent dans une plante verte. Donc nous ne sommes pas loin de vivre d'amour et d'eau fraîche bientôt, puisque nous vivrons grâce au soleil et enfin etc. Bon, on peut rêver, mais vous voyez que les animaux et les plantes sont eux-mêmes des organismes qui par moment peuvent admettre des situations intermédiaires tout à fait intéressantes.
Alors, parmi toutes les questions que vous posez dans ce livre, Marie-Christine Morel, vous vous intéressez à la question de la construction du artificiel, du vivant, construire le vivant de toute pièce. C'est une discipline qui a l'ambition de le faire, c'est la biologie synthétique. Écoutez ce qu'en disait le biologiste Jean Rostand, qui était visionnaire en 1962.
Il est certain que par un moyen ou par un autre, les chimistes finiront par modifier le DNA. Ils feront une sorte d'industrie du DNA, comme on fait l'industrie des matières plastiques. On fera des super DNA. On finira par falsifier le DNA naturel, par le frelater en y introduisant des molécules étrangères. Et alors vous voyez tout ce que cela ouvre d'espoir, de perspective pour l'homme, et aussi, disons-le, d'inquiétude. Je vous avoue que pour ma part, car un biologiste a quand même le droit d'être un homme, je doute que l'homme soit actuellement mûr pour prendre en main la commande chimique de son destin. Mais le sera-t-il jamais ?
Voilà, espoir et inquiétude de Jean Rostand mêlés, Marie-Christine Morel. Quels sont les buts et les méthodes de la biologie synthétique aujourd'hui ?
Alors, c'est vraiment très intéressant ce petit passage de Jean Rostand, qui était un naturaliste absolument extraordinaire. C'est vraiment quelqu'un qui a touché absolument à tous les domaines de la biologie, qui a beaucoup, beaucoup écrit. Et donc, effectivement, Jean Rostand parlait déjà, il y a, donc dans les années 60, vous voyez, il y a plus de presque 60 ans, maintenant, il parlait de personnes mixtes. Il disait que, non seulement ce qu'il développe là dans ce court passage à propos de l'ADN, mais même des êtres humains pouvaient être, on pouvait envisager qu'il allait y avoir des personnes mixtes. Et cela rejoint quelque sorte, et ce que l'on disait il y a quelques instants, à savoir que il existe des êtres intermédiaires. Et au fond, l'ambition de la biologie de synthèse, c'est de créer des êtres intermédiaires, des êtres qui soient capables d'accomplir des performances que, en particulier au niveau des bactéries, des bactéries qui soient capables d'accomplir des performances que normalement leur génome ne leur permet pas de faire. Et donc, si on insère des gènes dans un certain type de bactéries, c'est ce que font les gens qui font de la biologie de synthèse, on espère fabriquer des bactéries qui seraient capables de dépolluer un océan.
Et de manger le dioxyde de carbone.
Le pétrole et de dégrader ces marées de pétrole. D'autres imaginent fabriquer par exemple des parfums. Vous savez que sur notre peau, nous avons des bactéries partout dans nos cheveux, sur notre peau, etc. Et donc il suffirait d'insérer des gènes d'aromates particuliers que l'on mettrait sur notre ces bactéries sur notre peau seraient des parfums permanents. Mmh. Enfin, on peut imaginer mille choses.
Il y a aussi
absolument
beaucoup d'applications en médecine.
Et alors évidemment, il y a des applications en médecine pour évidemment la bactérie Escherichia coli à qui on fait fabriquer de l'insuline. C'est une avancée majeure. Donc Jean Rostin a raison de souligner que ce sont des avancées considérables auxquelles on n'échappera pas, mais on n'a pas intérêt à y échapper parce que cela représente un progrès considérable dans la connaissance et dans la santé, dans toute une série de domaines, mais également cela pose la question de savoir jusqu'où on peut aller, puisque si l'on peut répandre comme ça des bactéries qui sont capables de faire d'essaimer des maladies, cela aussi représente un danger très très grand. Cela dépend entre les mains de qui ça tombe. Oui.
Mais est-ce qu'on est capable aujourd'hui, Marie-Christine Morel, de synthétiser le vivant originel?
Non.
Mais c'est ça qu'on cherche à faire.
Alors bon, dans les laboratoires. Les laboratoires qui s'intéressent aux origines de la vie essaient de fabriquer, effectivement, il y a plusieurs laboratoires aux États-Unis, en France également, qui essaient de fabriquer des premiers compartiments grâce à des molécules qui ressemblent aux membranes cellulaires, en mettant essentiellement des lipides, des molécules d'acide gras aussi, avec quelques peptides, quelques protéines. On fabrique comme ça des compartiments de manière totalement artificielle, sans enzymes, simplement sous un effet mécanique. Et à l'intérieur de ces compartiments, on essaie de faire pénétrer des molécules comme l'ARN dont nous avons parlé tout à l'heure et de voir si cet ARN est capable d'exercer à la fois des actes informationnels, c'est-à-dire de se répliquer, et à la fois des actes catalytiques tels que l'exercent les ribosomes. Donc on essaie de fabriquer ça, mais on est loin du compte. Hein. On n'est pas encore arrivé à ça. Moi, par exemple, dans mon laboratoire, une étudiante en thèse, Laura Da Silva, vient de réaliser une synthèse d'ARN dans des conditions prébiotiques, c'est-à-dire absolument sans enzymes, exactement comme cela a pu se passer à un moment donné, très tôt, au cours de l'évolution primitive. Simplement en présence de sel, de chlorure d'ammonium. Je pense à la phrase de Charles Darwin, vous avez peut-être entendu parler de cette phrase où il dit aussi, mais un si grand si, on disposait de lumière, de chlorure d'ammonium justement, et de toute une série d'ingrédients, on arriverait peut-être à recomposer les premières étapes de la vie. Eh bien, Laura est arrivée à recomposer, si vous voulez, dans des conditions hydrothermales, c'est-à-dire qu'elle pratique des cycles de sécheresse et d'hydratation. Répéter vraiment jour et nuit pendant des heures et des heures, et en présence de chlorure d'ammonium, et donc et en présence des briques élémentaires de l'ARN que sont les briques AUGC, et en mettant tout ça non activé, vraiment à l'état brut, et en mettant tout ça en présence, eh bien elle a obtenu des molécules d'ARN.
Donc ça veut dire essayer de reconstituer la terre primitive, l'environnement primitif,
essayer de reconstituer reconstituer l'environnement primitif. Et on peut essayer d'aller en amont, c'est-à-dire que l'ARN est constitué, je vous l'ai dit, de AUGC.
Mais c'est A, c'est... Que signifie ces lettres?
Alors, c'est A, c'est pour le nucléotide adénine, basé autour de l'adénine, qui est constitué du noyau, d'un noyau purique, que l'on appelle. Et donc, ce noyau purique est associé à un sucre, le ribose, et à un phosphate. G, c'est la guanine, associée à un sucre et un phosphate. C, c'est la cytosine, associée à un sucre et un phosphate. U, c'est l'uracile, associée à un sucre et un phosphate. Et donc, lorsque vous associez ces unités, là, A, U, G, C, avec leur sucre et leur phosphate, eh bien, vous obtenez ce brin d'ARN qui a ses propriétés extraordinaires de porter un message, une information, et d'exercer des actes catalytiques. Et donc, arriver à reconstituer cela dans des conditions primitives, des cycles d'hydratation et de sécheresse, sont par exemple des conditions de la Terre primitive, eh bien, c'est déjà un grand pas. Mais encore faut-il arriver maintenant à reconstituer ces fameux AUGC séparément. Hein, parce que ce sont déjà des molécules qui constituées de trois parties qu'il va falloir associer. Alors l'adénine, on en trouve partout, on en trouve dans des météorites, c'est formidable. Le phosphate, on en trouve partout, c'est une substance minérale. Par contre, il y a un petit problème avec le sucre, qui est vraiment une molécule avec 5 atomes. Vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. Eh bien, c'est très difficile à obtenir et à stabiliser dans des conditions prébiotiques. Donc d'autres étudiants s'intéressent à ça. Comment on peut obtenir du sucre dans des conditions primitives? Vous voyez, c'est passionnant. On s'amuse beaucoup.
Autour de la question d'où vient la vie, pourquoi la quête des origines déclenche-t-elle tant de passion? Pourquoi Darwin est-il encore contesté aujourd'hui? Qu'est-ce que le créationnisme et comment le combattre? On en parle après Acha Dead Again sur RFI.
No more your freaking bullshit, no more your talking lies, no more you putting me down, deceptive blue eyes. Wake up and smell the coffee, wake up and take a pill. You think I wouldn't go on without you, you really think I'll fail. You really are a fool, you sentimental fool, and I kind of feel sorry for you. What's good around, you talking me down, but I found out that so it was you, so it was you. Picked up the knife and you cut me in two. You stabbed me in the back and ain't twisted it in. Oh, 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 you left me for dead again. No more you playing Jesus, why don't you pick a lane? I thought that you were normal, but you're the devil insane. I try to keep you grounded, cause it's no good for my health. But you really can't save a man from himself. There's so much I can say before I turn to break all ties with you. Cause what's good around, you're talking me down. But I found out, so it was you, so it was you. You picked up the knife and then you cut me in two. You stabbed in the back and then you twisted it in. For dead again. So it was you. You picked up the knife and then you cut me in two. You stabbed in the back and then you twisted it in. Oh, oh, you left me for dead again. So just stab in the back and then you twisted it in. Oh, oh, you left me for dead again. You, so it was you. You picked up the knife and then you cut me in two. You stab in the back and then you twisted it in. Oh, oh, you left me for dead again. Left me for dead. Again.
Acha, Dead Again sur RFI, c'est le coup de cœur de la semaine de Charles Pellabon, notre réalisateur. Marie-Christine Morel, vous connaissez Guillaume Lecointre, professeur au musée d'histoire naturelle, chercheur en systématique, et il a publié en 2012 « La science face au créationnisme ». Écoutez.
Quand on est scientifique, on ne devrait pas avoir à parler du créationnisme. Si on en parle, c'est parce qu'en fait, il existe des associations ou des partis politiques qui veulent absolument que la création soit mobilisée au laboratoire, que la providence soit active ou soit mobilisable en tant qu'explication dans l'espace du laboratoire pour faire des sciences une entreprise en quelque sorte théologique, faire revenir les sciences dans le giron de la théologie, comme ça l'était au XVIIe siècle et avant. Et donc, évidemment, les scientifiques doivent être mobilisés, non pas nécessairement contre l'idée de création, parce que les scientifiques ne sont pas des prescripteurs en métaphysique. Ils ne limitent leur légitimité qu'au monde physique. Mais ils doivent se mobiliser lorsque des think tanks, des boîtes à idées américaines, par exemple, décident de redéfinir les sciences de l'extérieur pour y faire rentrer la providence. Et donc faire rentrer la providence à l'école, parce que l'enjeu, il n'est pas dans les sciences. Il faut bien comprendre que l'enjeu de déformation épistémologique des sciences, l'enjeu, il n'est pas chez les scientifiques. Les scientifiques, ils haussent les épaules. C'est des bêtises, on a autre chose à faire que de s'occuper de ces gens-là. Non, l'enjeu, il est à l'école, en réalité.
L'enjeu est à l'école, disait Guillaume Lecointre. Alors, il y a bien sûr plusieurs formes de créationnisme, mais globalement, ça veut dire croire à la notion de dessin intelligent et à la génération spontanée de certains organismes. Et certains tenants de cette théorie n'hésitent pas à piller les travaux scientifiques, comme les travaux des paléontologues ou des géologues, Marie-Christine Morel.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, oui, il y a plusieurs formes de créationnisme. L'idée est que créer la vie comme ça des novos à partir de rien, la vie serait apparue, c'est une forme de génération spontanée. Ça c'est la forme basique du créationnisme. Et puis il y a ce que souligne Guillaume Lecointre, des organisations qui sont militantes et qui défendent des intérêts soit financiers, parce que il faut le dire, hein, un certain nombre de scientistes, en particulier aux États-Unis, ça existe, des organisations sont des vrais lobbies avec beaucoup d'argent à la clé. Ils s'appuient à la fois sur la science, sur les résultats de la science, pour dire que comme ils sont insuffisants, comme on n'a pas tout trouvé, c'est bien la preuve que quelque chose d'autre existe, un dessin intelligent existe. Alors ils s'appuient à la fois sur la science et à la fois sur la religion. Enfin, moi, je suis persuadée qu'il y a une forme de malhonnêteté dans des deux côtés, c'est-à-dire qu'à la fois ils sont malhonnêtes sur le plan scientifique et à la fois sur le plan de ce dont ils se réclament, à savoir la religion. Mais je pense que c'est vraiment un problème très très important, surtout quand on voit aujourd'hui les malheurs que suscite et que provoque des religions extrêmes dans le monde, quoi. Voilà. Donc je pense que vraiment il faut rappeler, et il est juste de dire que tout se passe à l'école, c'est-à-dire qu'il faut rappeler les fondamentaux de chaque chose, savoir qu'il y a des connaissances, et puis il y a des croyances qui sont liées au psychisme, à ce qui se passe à l'intérieur de chacun des êtres humains que nous sommes, et qui nous ne sommes pas identiques sur le plan psychique, et certains ont besoin d'invoquer des forces, d'autres forces, parce qu'ils n'ont pas assez de ressources en eux, ou parce que je ne sais pas, je ne peux pas développer, mais si vous voulez, il faut bien différencier le créationnisme, le lobby financier et religieux, et puis d'autres forces de l'esprit, comme disait je ne sais plus qui sont nécessaires à certains êtres humains pour pouvoir vivre en paix, en harmonie et en quiétude avec eux-mêmes. Mais moi je voudrais souligner des choses très très intéressantes, parce que aujourd'hui il y a vous avez entendu parler probablement du transhumanisme, oui, de la transformation de l'espèce humaine en autre chose, et au transport, si vous voulez, de toutes les fonctions cérébrales dans un ordinateur. Et donc, à terme, l'ordinateur, il y aurait une vie artificielle, et l'ordinateur aurait à sa disposition des espèces, des molécules, etc. Et donc, la vie ne serait plus matière, mais la vie serait en quelque chose de dématérialisé.
In silico,
c'est, in silico, et voilà. Et on peut se demander. Il y a des discussions très très intéressantes à avoir à ce propos sur la notion de qu'est-ce qui est transmis, qu'est-ce qui est véhiculé dans in silico, qu'est-ce que sont ces notions d'information et de grands bits d'information qui sont véhiculés dans le monde entier. Et donc, je crois qu'autour de ces notions là qui vont je pense énormément être prégnants énormément c'est dans les 10-20 prochaines années, il y a beaucoup matière à penser. Et puis par exemple, il y a quelque chose de très très important. Au début, vous savez que au début on peut se poser la question d'accord, d'où vient la vie, mais d'où ça vient tout ça, pourquoi ça et plutôt que rien, quoi. Parce que bien il y a eu le Big Bang, enfin les astrophysiciens parle du Big Bang, et puis cette espèce d'énorme chaos où il n'y avait que des ondes qui à un moment donné donc se sont transformées en particules, et puis il y a eu et puis ces particules ont donné la matière qui a pris cher entre guillemets, et mais que sont devenues ces ondes en nous? Après tout, est-ce que il n'y a pas là des choses à penser du côté de l'information, du côté de l'esprit? Et je pense que il y a une convergence absolue entre toutes les sciences cognitives et les sciences qui s'intéressent aux origines de la vie et à la formation de la vie, du vivant.
Bref, ça bouillonne, ça bouge tout le temps. Mais Marie-Christine Morel, je renvoie à votre passionnant petit livre « D'où vient la vie » publié aux éditions du Pommier dans la collection « Les petites pommes du savoir ». Un grand merci à Charles Pélabon et à Caroline Fillette. Et demain, nous parlerons de l'énergie, moteur de progrès. À demain.